d'Haïti au Pas-de-Calais. Rencontre avec Lovenson, jeune homme de 24 ans. Il vient de terminer son service civique à Arras. Haïti, chérie,
il faut payer, passer au nom. Je suis Saint-Cyr Souvenson, un Haïtien venant d'une commune qui s'appelle Limonade. Du coup, je suis à Arras depuis le mois d'avril dernier, donc il y a environ 7 à 8 mois de cela. Je suis venu ici justement dans le cadre d'une coopération qui existe entre la ville d'Arras et ma ville natale, Limonade, parce que dans cette coopération, Arras, la ville d'Arras a pu envoyer de manière successive, je dirais, des jeunes services civiques arageois à Limonade. Et du coup, dans une logique de réciprocité, la ville d'Arras aussi accueille des Limonadiens à Arras. Voilà, c'est ça.
Comment c'est venu d'abord cette idée de coopération entre les deux villes, Arras et Limonade ?
C'est toute une histoire, parce que, en fait, 12 janvier 2010, c'est une date inoubliable de l'histoire d'Haïti, parce que il y avait un tremblement de terre qui a pu ravager le pays. Il y avait environ 300 000 morts. Et du coup, Haïti était dans une situation lamentable. Il y avait beaucoup de pays étrangers qui ont manifesté le désir justement de venir porter Haïti en aide. Et parmi les pays, il y avait la France. Et dans la France, il y avait la ville d'Arras qui n'avait pas gardé, je dirais, le silence, et qui était allée en Haïti voir comment elle peut apporter, je dirais, une touche dans... comme aide justement pour essayer d'aider Haïti à sortir de cette situation. Donc il y avait Mme Denise Bouquier, c'est la première mairesse adjointe de la ville d'Arras, qui est chargée de la question de la coopération internationale aussi. Donc elle était allée en Haïti, elle a vu comment ça se passe et elle a décidé de mettre en place une coopération entre une ville en Haïti et la ville d'Arras. Donc la ville qui a été choisie à l'époque, c'était la ville de Limonade, puisque selon ses études, selon l'étude de Mme Bouquier, elle a vu effectivement que la ville d'Arras a une certaine similitude par rapport à la ville de Limonade.
Comment tu vois un petit peu la coopération entre Arras et Limonade ? Est-ce que ça apporte quelque chose aux deux villes ?
Mais bien sûr, ça apporte quelque chose. Donc, depuis 2012, la coopération existe. Si vous voulez, c'est que la charte a été signée en 2012 et jusqu'à présent, la coopération continue son petit bonhomme de chemin. Donc, la coopération a déjà 6 volontaires, entre guillemets, parce que la ville d'Arras a 3 reprises envoyé 3 services civiques arageois à Limonade. Et là, la ville d'Arras accueille aussi... mon prédécesseur, c'était Ramsès Bernardin. Et là, bien que ma mission termine déjà, parce que j'avais une mission pour 6 mois, donc depuis le début du mois d'octobre, ma mission se termine. Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce qui, toi, t'a motivé dans cette expérience ?
En fait, concernant la motivation, c'était toujours une envie d'aller visiter les pays de l'Occidental. Donc, ça m'a motivé justement de venir ici justement pour voir quelles différences existent entre le mode de fonctionnement des pays entre guillemets développés par rapport à les pays en retard de développement, notamment Haïti.
Qu'est-ce que tu as fait dans le cadre de ce volontariat ici, toi, à Arras, alors ?
En fait, dans le cadre de ma mission ici, j'ai eu la chance de travailler avec les enfants de l'école Antoine France, justement pour les sensibiliser à la culture haïtienne, mais aussi de travailler avec quelques groupes de jeunes, notamment l'AMICA, Vendor, Casa Jean Jaurès. Je travaille aussi, je fais des interventions aussi à la résidence Soleil avec des personnes âgées, justement pour leur montrer les différences qui existent entre la politique de gestion des personnes âgées en Haïti et par rapport à les personnes âgées en France, c'est ça.
Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette mission, cette expérience, ton expérience ici à Arras ?
En fait, je dis à 1000 reprises, et je ne cesserai jamais de le dire, que c'est une expérience qui me permet de voir les perspectives de ma vie, tant sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel.
Ici, ta mission, c'était plutôt de l'ordre de l'échange culturel. Là-bas, les volontaires... Arrajois qui vont en service civique à Limonade, c'est aussi des échanges culturels ou est-ce que ça va aussi du côté du développement économique
En fait, si vous voulez, c'est que le fait que les volontaires ont des parcours différents, donc ils ont pu réaliser des missions différentes. Donc, si vous voulez, il y avait la première volontaire, c'était Charlene Thomas. Donc, elle, le fait que c'était la première qui a eu la chance d'aller en Haïti, et c'était tous les débuts de la coopération Race Limonade. Donc, elle a fait, si vous me permettez, une étude diagnostique pour voir sur quoi on va essayer de travailler par rapport à cette coopération. Parce que, si vous voulez, la coopération... Elle est établie en fait sur quatre volets. C'est le volet universitaire, le volet agricole, le volet culturel et aussi le volet de la gouvernance.
Alors est-ce que ça avance dans tous ces volets alors ?
Mais bien sûr, ça avance dans tous ces volets. Ça avance.
Moi, fait la belle petit pays qui baignait la mer des Antilles. Pays si là. Oui, me rêve-li, li tellement douce, tellement tranquille, Haïti, c'est qu'on s'allégrait.
On est toujours en compagnie de Lovenson Saint-Illus, jeune haïtien qui vient d'effectuer un service civique auprès de la mairie d'Arras dans le cadre des échanges avec la ville de Limonade.
Haïti, Haïti.
Là, on est à la résidence Soleil, donc une maison de retraite. Il y a dans la salle de vie hein, une exposition. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette exposition ?
Oui, je peux vous parler de cette exposition parce que je suis un acteur actif de cette exposition. C'était dans le cadre de ma mission. Comme je vous avais dit que j'avais eu la chance de travailler avec les trois catégories d'âge, les enfants, les jeunes, aussi les personnes âgées. Et dans cette perspective, je me suis dit, bon, une exposition portant sur les personnes âgées en Haïti me semble vraiment intéressante, dans la mesure où les personnes âgées à Arras vont prendre connaissance de manière visuelle. Donc, comment ça se passe avec les personnes âgées en Haïti. Donc, c'est un projet, si vous voulez, c'est qu'il y avait le deuxième service civique arajois, qui était allé à Limonade, qui a mis sur pied, je dirais, un atelier photo avec les jeunes des Limonades. Je me suis dit, bon, on va essayer de demander aux jeunes des Limonades de prendre des photos, les photos des personnes âgées à Limonade, et de me les envoyer. Et moi, je fais les derniers traitements, justement, pour faire cette exposition, voilà, comme vous voyez ici.
Alors peut-être un mot, on va regarder un petit peu quelques photos. Alors là, on voit effectivement des personnes âgées qui sont assises. C'est une fête en leur honneur, c'est ça ?
Voilà, donc ici, comme vous voyez, c'est les trois personnes les plus âgées à Limonade. Donc chaque année, on essaie de faire une fête justement pour les honorer. Parce que c'est une chance d'être considérés comme les personnes les plus âgées dans une ville. Donc, dans cette perspective, il y a une association qui s'appelle AFLIDEPA. Chaque année, cette association-là fait une fête, réalise une fête justement pour mettre en valeur, mettre à l'honneur les personnes les plus âgées. Donc là, c'était en 2017. On a pu voir qu'il y a trois personnes les plus âgées. Bon, heureusement, c'est trois femmes. Ça peut vous donner déjà une image, vous dire qu'effectivement, les femmes vivent beaucoup plus de temps que les garçons à Limonade. Donc, voilà.
On passe à un autre panneau, peut-être. Alors, ça ressemble, on dirait une réunion, une photo syndicale. Oui, c'est une photo syndicale de personnes âgées qui travaillent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo, alors ?
Voilà, comme vous voyez, c'est un syndicat regroupant les personnes âgées qui travaillent encore. Ici au service de la voirie de Limonade. Donc, ce n'est pas comme en France quand on parle de service de voirie. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec les routes, tout ça. Donc, chez moi, on peut dire que ce concept-là, ce vocabulaire-là, ce mot-là, la voirie, ça renvoie à des personnes qui gèrent l'embellissement de la ville. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont toujours à travers le territoire limonadien, justement pour ramasser les ordures, tout ça, justement pour gérer et voilà, la beauté, l'embellissement de la ville, c'est ça.
S'ils travaillent, c'est qu'ils ne sont pas à la retraite. Comment ça se passe la retraite en Haïti?
Donc en Haïti, c'est, je pourrais dire que c'est particulier parce que ce n'est pas comme en France. Les personnes qui partent de manière raisonnée à la retraite, ce sont plus les prêtres, voilà, les sœurs religieuses. Mais en fait, l'État ne prend pas forcément en charge cette question. Donc on peut avoir 70 ans, 80 ans, on travaille encore. C'est ça.
Alors là, donc on voit un père et son fils, un grand-père et son fils. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo alors?
Voilà, en fait, si vous voyez ici, en fait, il y a plusieurs photos à travers lesquelles on trouve toujours des personnes âgées qui sont accompagnées des enfants, des jeunes, tout ça, sinon de leurs enfants. Donc c'est justement pour montrer comment l'aspect intergénérationnel est très important pour les Haïtiens, parce que en Haïti c'est toujours ce qu'on appelle un plaisir justement d'être à côté et, voilà, des personnes âgées et voilà, donc les enfants sont toujours contents d'être toujours à côté de leurs parents. Donc vous allez voir que à chaque reprise les parents vont chez leurs enfants, chez leurs petits-enfants, justement pour passer des moments de la convivialité, c'est ça.
Des maisons de retraite comme celle-ci, là, ou mais non. La résidence Soleil, ça n'existe pas
En fait, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est pas. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc l'idée, c'est que, si vous voulez, c'est que les personnes âgées doivent rester chez, je dirais, leurs enfants, c'est ça. Donc, c'est pas comme en France, on va voir que les personnes qui ont 70 ans, 90 ans, donc ils sont tous trouvés dans une maison de retraite et qu'il y a des moments exceptionnels où leurs enfants peuvent venir leur voir. Donc, c'est pas pareil en Haïti. En Haïti, c'est que les personnes âgées restent encore chez eux, accompagnées de leurs enfants, c'est ça.
Là, on voit une photo avec des personnes qui participent à une fanfare. La musique, bien sûr, c'est quelque chose de très important à Haïti. Haïti rayonne aussi au niveau culturel grâce à ses nombreux musiciens.
Oui, voilà, parce que, si vous voulez, c'est que la musique, c'est un élément très intéressant, justement pour les Haïtiens, parce que la grande majorité des Haïtiens aiment beaucoup la musique, et surtout notre musique dans la Caraïbe, c'est le compas. Donc c'est une musique qui a beaucoup fait la une à travers le monde, notamment dans la Caraïbe. Et ici, comme vous voyez, c'est une fanfare, donc qui donne des manifestations à travers les rues quand il y a la célébration des dates importantes, je dirais, en Haïti. Par exemple, le 1er janvier prochain, donc vous allez voir que cette fanfare-là va être à travers les rues, justement, pour jouer de belles mélodies et pour exprimer leur contentement, parce que c'est une date qui explique effectivement leur force à travers l'histoire de l'humanité, c'est ça. 1er janvier 1804, c'est une date très intéressante pour les Haïtiens, parce que c'est la date où la nation haïtienne va, justement, va prendre naissance, parce que Haïti au départ n'était pas considéré comme un pays, c'était une ancienne colonie de la France notamment. Donc c'était le 1er janvier 1804, on a pu proclamer l'acte de notre indépendance. Voilà, donc.
Et en même temps, c'était un peu le premier pays colonisé à être indépendant, c'était vraiment historique. C'est les esclaves qui se sont rebellés pour réclamer leur indépendance.
Oui, voilà, parce que, si vous voulez, c'est que c'est 12 ans de guerre, 12 ans de lutte. Ça commence, je dirais, il y a des signes précurseurs, et de 1989, 1991, voilà. Mais et la dernière bataille, c'était le 18 novembre 1803, où je dirais, l'armée indigène. Quand je dis l'armée indigène, c'est l'armée, si je veux commettre cette faute, et l'armée haïtienne. Mais j'ai bien dit, Haïti n'était pas encore existé. Quand je dis l'armée indigène, donc vous devez faire référence à l'armée haïtienne. Donc cette armée-là va être considérée comme le vainqueur en face de l'armée napoléonienne. Voilà.
Moi, ta reine me connaît, date et jour m'a mouru.
Si tu as 24 ans pour vivre, et puis nous connaissons ta poil mourir. 24 ans. Qui soit ta fait? Yo, si tu as 24 ans pour vivre, moi, ta poil checker mamie, dis li te fait un bon travail avec premier petit li. Le yo te relè me volé, assassin, li pas de jambes la gueule, li te toujours kebe. Bon souffrant tête li, après ça, prend la rue.
Dernière partie de notre entretien avec Lovenson Saint-Illus, un jeune haïtien à Arras.
Haïti, en ce moment, il y a des mouvements sociaux importants, une situation politique compliquée. Comment tu vois, toi, tout ça, vivant à Arras depuis quelques mois?
En fait, je peux faire une analyse. C'est pas une analyse très approfondie parce qu'il faut être sur le territoire pour voir la mentalité, le fonctionnement, je dirais la politique même de la politique haïtienne parce que c'est très 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 compliqué. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui nous sommes en train de faire face à un problème où la jeunesse, notamment la jeunesse haïtienne, est en train de demander à l'État haïtien une somme qui a pris la fuite. On ne sait pas où s'est passée cette somme, parce que si vous voulez, c'est que c'est le Venezuela qui a voulu aider Haïti à sortir de cette situation de pétrin dans laquelle Haïti se trouve. Et là, il nous a donné environ 3,8 milliards de dollars de pétrole. Donc, dans la mesure où Haïti va, l'État haïtien va vendre ces pétroles-là, bon, aujourd'hui, la population haïtienne, notamment la jeunesse, ne voit pas où s'est passée cette somme. Donc, ils sont vraiment frustrés. Donc, ils disent que leur avenir sont en danger. Voilà, il y a tout un point d'interrogation qui est sur leur avenir. Et là, ils sont en train de demander à l'État haïtien qu'est-ce qu'on doit faire pour retrouver cette somme-là, parce qu'on doit le trouver, c'est ça.
Alors toi, tu as choisi après ton service civique de rester à Arras pour poursuivre des études. Est-ce que tu peux nous en parler?
Voilà, en fait, depuis quand je suis arrivé à Arras, j'avais bien dit que c'était toujours un plaisir, en fait, un envie à moi, justement, d'aller dans des pays étrangers pour faire mes études, parce que j'ai un rêve. En fait, si vous voulez, c'est que mon rêve, c'est de contribuer, je dirais, au développement de mon pays. Donc, pour faire développer un pays, je pense que la première chose qu'on doit se toucher, c'est justement l'éducation. Donc, un pays qui habite par des gens et que les gens-là ne sont pas éduqués, donc c'est un pays qui est condamné à vivre dans le sous-développement, hein, qui est condamné à vivre dans une situation de pétrin, quoi. Donc l'idée, c'est comment, moi, en fait, mon envie, c'est justement de passer, de faire mes études ici, de comprendre aussi la réalité, certaines réalités dites bonnes de la France, et pourquoi pas d'aller en Haïti les mettre en valeur, justement pour voir comment je peux en quelque sorte contribuer au développement de mon pays.
Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une loi qui est passée en France pour justement faire monter les tarifs, le prix des études pour les étudiants étrangers. Comment tu vois ça, toi?
Donc, en fait, l'idée, c'est que je ne peux pas dire beaucoup de choses concernant cette loi parce que c'est une proposition, ce n'est pas encore voté. Donc, je pense que si je peux, en quelque sorte, faire une analyse, je veux dire que si effectivement on veut augmenter le prix de la scolarité des étudiants étrangers, donc il faut que l'État français prenne aussi en charge quelques responsabilités de ces étudiants-là, parce qu'il y en a qui laissent leur pays, qui font beaucoup de sacrifices pour venir faire des études en France, et il y en a qui je peux dire quoi, qui fait sortir du sang dans les roches, dans les pierres, justement pour venir en France faire leurs études, et que avec cette augmentation là, donc ils ne vont plus être capables de rester en France pour faire leurs études. Imaginez-vous quelqu'un qui était venu et, voilà, pour dire bon, je vais passer 5 ans en France pour faire mes études, et aujourd'hui il est en troisième année, donc qu'il ne pouvait plus résister par rapport à la montée de cette scolarité. Donc cette personne-là va laisser ses études justement pour aller dans son pays d'origine. Donc au bout d'un moment, il a raté sa vocation, il a raté, je dirais, ses rêves. Donc l'idée, c'est comment l'État français peut en quelque sorte prendre en charge cette question, voir comment effectivement, si on veut augmenter le prix de la scolarité des étudiants étrangers, mais c'est comment on peut apporter quelques aides de plus, voilà, aux étudiants étrangers, c'est ça. Ça, c'est mon point de vue.
Love Enson Saint-Illus, jeune haïtien de 24 ans, il est venu à Arras effectuer un service civique dans le cadre de la coopération décentralisée entre Arras et la ville de Limonade en Haïti.